Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Plan Large, vous êtes à l'écoute d'Alternant FM 98.1 Nantes, 91 du côté de Saint-Nazaire. Ça fait plaisir de se retrouver après une grande coupure liée à notre déménagement. Et on va commencer cette nouvelle année où je vous souhaite, Plovis Mad, bonne année pour 2018, plein de bonnes choses et surtout des bons films et des bons festivals, puisqu'on va commencer par Festival Universciné Britannique. Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de les rencontrer. Et j'ai dans le studio Céline Le Templet. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes prof, bien sûr, à l'université de Nantes.
Oui, tout à fait.
Plutôt du côté des États-Unis, américaniste, que vous dites, vous êtes plutôt...
Je suis plutôt spécialiste des États-Unis au départ, mais là, je m'occupe du festival Universciné Britannique.
Voilà, ben donc c'est bien pour ça qu'on vous a vu venir, hein, de toute manière.
J'enseigne l'anglais à l'UFR de sociologie.
Voilà. Donc, ce festival Universciné qui va débuter le 18 janvier au cinéma 14A, comme d'habitude, du 18 au 21 janvier, avec, comme on a l'habitude, une petite sélection pour la compétition, de nombreux invités dont on va regarder un petit peu. Alors, première chose que c'est Céline Le Templet. Sur la programmation, j'avais l'impression, c'est difficile des fois d'avoir une programmation, d'essayer de penser une programmation, est-ce qu'il y a un fil linéaire ou pas. Alors je ne sais pas si effectivement vous avez vraiment eu conscience d'avoir tiré un fil, mais moi j'ai retrouvé un fil dans à travers à la fois les films en compétition et les films que vous présentez hors compétition sur l'identité, le libre arbitre, autour aussi de l'homosexualité, transsexualité, un certain nombre de films comme ça. Est-ce que ça a été voulu ou est-ce que finalement c'est les films, les bons films qui se présentaient qui parlaient de ces sujets-là? Comment ça s'est fait?
Alors effectivement, oui, dans les films en compétition, notamment, on a trois films en compétition qui parlent tous déjà du monde de l'adolescence, avec tous les questionnements identitaires que ça peut poser. On a un film, Just Charlie, qui parle d'un jeune de 14 ans qui s'interroge sur son identité sexuelle, qui est d'abord au départ un garçon, qui est né garçon et qui joue au football, et qui va s'apercevoir au fil du film qu'en fait il se sent fille et qu'il veut devenir fille. Donc c'est toute la question transgenre.
D'autant difficile en milieu du football.
Tout à fait, donc c'est vraiment un garçon dont le père a placé beaucoup d'espérance en lui. Le père voulait lui-même être footballeur et c'est son fils qui va reprendre le flambeau. Donc il va effectivement réagir très mal quand son fils va lui annoncer qu'il veut en fait devenir une fille. Mais il va intégrer une équipe féminine. Et donc tout le film parle de cette question identitaire, de cette question transgenre qui est encore tabou aujourd'hui, mais de plus en plus représentée dans les médias.
Alors, j'ai entendu dire en Argentine, je crois, qu'il y a des écoles ou un pays d'Amérique latine où les écoles doivent accueillir une école spécifiquement pour accueillir les transsexuels. Parce qu'effectivement, il y a des difficultés et il y a un quota dans les entreprises publiques pour pouvoir accueillir les transsexuels également.
Donc, ah oui,
voilà, il y a des choses qui avancent dans un certain nombre de pays et c'est pas forcément dans les pays auxquels on peut penser, nos pays occidentaux qui soi-disant sont le plus avancés.
Oui, c'est vrai que c'est pas non plus un sujet qu'on aborde très communément en France, c'est encore un petit peu tabou. Puis surtout chez les très jeunes comme ça, les très jeunes garçons, les très jeunes filles. Il y avait eu un film en France, Tomboy,
oui.
Il y a une dizaine d'années, un très beau film qui était sur justement une jeune fille au contraire qui voulait devenir garçon ou qui se faisait passer pour un garçon. Donc on est un petit peu dans la même veine cinématographique. Le film d'ouverture, Pincushion, est aussi sur ce monde de l'adolescence travaillé par toutes ces questions identitaires. Donc là, il s'agit plutôt de questions autour de la socialisation adolescente. Il s'agit d'une jeune fille qui va s'installer dans une nouvelle ville avec sa mère et qui va devoir s'intégrer dans un nouvel établissement scolaire. Et ce parcours va être semé d'embûches parce qu'elle va se retrouver intégrée dans un groupe de filles qui, en fait, ne lui veut pas du bien. Et donc, tout le film va être autour du harcèlement scolaire, autour de l'identité féminine à cet âge-là, 15-16 ans, tout ce qui est toutes les questions qui sont liées à la sexualité, à comment on se définit en tant que jeune fille par rapport aux garçons, par rapport aux autres filles, et qu'est-ce qu'on attend d'une jeune fille de cet âge-là, et quelles sont ses espérances également.
Le harcèlement scolaire, je crois qu'on le retrouve dans un autre film. J'ai cru voir. On parlait de harcèlement, en tout cas. Peut-être pas pour un autre film, peut-être pas harcèlement scolaire, mais harcèlement en tout cas qui existe, notamment peut-être, je pense, dans l'autre film dont vous allez parler, en compétition, Butterfly Kiss.
Butterfly Kisses, oui, c'est pas un film sur le harcèlement, c'est plutôt, bah, c'est pareil, c'est un film autour de l'adolescence, mais là c'est un groupe de garçons, donc c'est totalement l'inverse en quelque sorte de Pincushion, parce que Pincushion c'est un film réalisé par une femme qui tourne autour de toutes les questions des jeunes adolescentes. Butterfly Kisses, c'est autour d'un groupe de jeunes garçons qui va aussi explorer différentes choses, la sexualité, l'alcool, la drogue, et dans des quartiers un petit peu défavorisés. Et le film est construit autour d'un secret qu'un des protagonistes, Jake, un des jeunes garçons, garde, parce que c'est un secret totalement inavouable. On va pas le révéler parce que tout le film tourne autour de ce secret, mais c'est un secret qui tourne autour de cette question de la sexualité aussi et de l'identité sexuelle.
Un film en noir et blanc, celui-ci.
Et c'est un film en noir et blanc, et c'est un très beau film visuellement aussi, qui fait un petit peu penser à La Haine de Mathieu Kassovitz dans l'univers des HLM, mais là, plutôt côté anglais, évidemment, pas côté banlieue française. C'est pas exactement les mêmes thématiques, mais c'est le même groupe d'âge, la même classe d'âge. Donc ça fait un petit peu penser à ça, mais le réalisateur me disait l'autre jour dans une autre émission de radio qu'il n'avait pas vu La Haine, donc il s'est pas inspiré de La Haine, mais c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y avait des échos avec La Haine au niveau surtout esthétique.
Alors ces trois films qui sont les trois films en compétition, vous l'avez choisi vous en tant que professeur, ou comment le choix s'est fait?
Alors, j'ai repris ce festival cette année de manière un petit peu, disons, au pied levé, voilà. Il se trouve que Agnès Blandeau, qui fait le festival depuis une dizaine d'années, a voulu passer le relais. Que d'habitude, donc c'est un festival qui est né à la Faculté des Langues et Cultures étrangères, mais cette année, le festival n'a pas trouvé de repreneur au sein de la Faculté des Langues et Cultures étrangères. Moi, j'ai proposé de le reprendre de manière un petit peu tardive, parce que je pouvais en faire quelque chose dans le cadre de mon enseignement, parce que j'enseigne dans un master qui s'appelle Master Expertise des Professions et Institutions de la Culture. Donc moi, j'enseigne l'anglais à ces deux groupes d'étudiants, première année et deuxième année, et j'ai trouvé que l'organisation d'un festival, ça rentrait complètement dans leur cursus, parce que c'est des jeunes qui vont ensuite s'intégrer dans les milieux culturels, qui vont travailler soit dans les collectivités territoriales, dans les services culturels, soit pour des salles de concert, soit pour organiser tout ce qui est événementiel culturel, etc. Et donc j'ai dit que je pouvais reprendre ce festival si je pouvais l'intégrer dans le cadre de mon enseignement. Et donc toute la sélection des films en compétition a été faite avec la deuxième année du master. Donc c'est un petit groupe de 20 étudiants. Donc on a regardé, je leur ai demandé de regarder chez eux avant les cours. Une vingtaine en tout de films inédits. Donc moi, je me suis chargée de contacter tous les distributeurs. Donc on m'envoyait ce qu'on appelle les screeners, donc pour pouvoir visionner ces films en ligne et pouvoir les sélectionner. Donc les étudiants ont été très enthousiastes par rapport à ce projet.
J'imagine bien.
Donc c'était évidemment, c'est des films qui sont pas sous-titrés, donc c'était un vrai exercice aussi linguistique, un vrai exercice de langue. Donc ils ont regardé ces films en version originale non sous-titrée, et ensuite à chaque séance on débattait d'un ou deux films. Et donc, on a ensemble établi les critères, qu'est-ce qu'on choisit, quels sont nos critères, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Donc, à chaque fois, c'était un débat dans la classe, et les étudiants se sont vraiment totalement prêtés au jeu. Et donc, ça a été une année, un semestre très, très enrichissant, je pense, pour eux et pour moi, parce que moi, j'ai appris aussi énormément de choses sur tout ce milieu du cinéma que je connaissais assez mal, enfin en tout cas toute la partie distribution, tout ça. Et puis on a découvert énormément de films inédits, alors du bon comme du mauvais, hein. C'est vrai que dans les films indépendants, il n'y a pas que du bon. Et puis on s'est retrouvés sur ces trois films. Alors c'est vrai que j'ai respecté le choix des étudiants. Là, il y a deux films sur les trois sur lesquels on était totalement d'accord, et il y a un film que personnellement j'aurais pas sélectionné pour la compétition, mais c'était le choix des étudiants et je l'ai respecté. C'était dans le contrat. Donc voilà. Donc c'était vraiment très bien, et ils vont aussi participer en tant que bénévoles pendant le festival. Et ils m'ont accompagné aussi pour 4 d'entre eux à 2 émissions de radio. Donc c'est aussi pour eux une façon de valoriser le master, de valoriser leur formation, de s'initier aussi à différentes choses, que ce soit comprendre tous les enjeux de l'organisation d'un festival, ou bien ensuite aller en faire la communication, aller en faire aussi la promotion, et puis organiser aussi sur le terrain pendant les 4 jours du festival.
Et c'est intéressant parce que finalement c'est peut-être aussi éclairant sur vos propres étudiants, peut-être à travers le choix qu'ils ont pu faire, vous découvrez peut-être des pôles d'intérêt, et puis voilà, on voit, on a toujours l'image des jeunes. Voilà, qui sont toujours foufou, qui font pas forcément des choses intéressantes. Ben voilà, alors ce sont des jeunes entre guillemets privilégiés, parce qu'ils font quand même des études supérieures. Mais malgré tout, il y a un gros travail et puis un choix bien précis de films. On a parlé des thématiques. On voit qu'il y a ces thématiques qui sont au cœur de préoccupations de jeunes finalement.
Oui, oui, je pense que les choix, enfin le choix du monde de l'adolescence, c'est vraiment imposé à nous, sans doute par rapport au goût de ces jeunes. Et c'est vrai que non, mais les jeunes sont pas foufou comme vous dites. Enfin bon, ils ont été absolument passionnés par le projet, et donc j'espère moi le reconduire les années prochaines.
Bah, nous aussi.
Et puis le festival s'appelle Univers Ciné parce oui. que donc c'est ça aussi que j'ai voulu marquer par ce choix pédagogique, c'est que c'est vraiment un festival qui est une collaboration entre le monde de l'université et le monde du cinéma. Et donc je trouvais que c'était donner tout son sens aussi au titre du festival que d'impliquer directement les étudiants dedans.
Alors il se trouve que pour ces 3 films, les réalisateurs et réalisatrices seront présents.
Alors oui, on aura plusieurs invités. On aura donc les 3 réalisateurs, dont 2 réalisatrices, des films en compétition. Donc on aura Rebecca Fortune pour Just Charlie, Deborah Haywood pour Pin Cushion, et puis Raphaël Kapelinski pour Butterfly Kisses.
Butterfly Kisses, dont on a entendu en entrée d'émission, j'avais pas mon générique, la musique du film.
C'est ça,
qui est de Pied Piper, de Nathan Klein.
Voilà, c'est ça. Donc c'est une musique qui est basée sur beaucoup d'orgue, beaucoup de flûte, je crois, mais surtout de l'orgue. Et donc on aura ces 3 réalisateurs qui viendront nous présenter leurs films avant et après les séances. On n'aura qu'une séance par film en compétition. Les années précédentes, on avait 2 séances par film en compétition. Cette année, on a un festival qui est un petit peu plus resserré dans le temps parce que le festival ne devait pas avoir lieu étant donné qu'il y avait cette vacance à la tête du festival. Donc, Caroline Grimaud, la directrice du 14A, avait prévu de faire un festival mais plus court. Et puis, bon, bah, finalement, on a réussi à monter cette compétition. On aura aussi 3 autres invités.
Alors, sur les invités, simplement pour dire, oui. On n'est pas forcément sur des jeunes réalisateurs, notamment Raphaël Kapelinski, qui me semble pas être quelqu'un de très jeune. En plus, un banquier reconverti.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Mais il avait été accueilli en 2009, donc il y a déjà effectivement 8 ans. Mais parmi les jeunes réalisateurs, effectivement, il pouvait être un jeune réalisateur tout en étant déjà âgé.
Voilà.
Parce qu'il a commencé un petit peu tard sa carrière cinématographique.
Exactement. C'est son premier long métrage. Donc, on peut dire que c'est un jeune réalisateur.
Ben oui, absolument.
Pas par l'âge, mais par l'expérience.
Oui, donc, on dit sur les autres, 3 autres, effectivement, invités, dont un que je connais pour avoir été plusieurs fois au festival de Dinard, Hussein Indy, quelqu'un de très intéressant, et qui fera en plus une masterclass. Alors que, donc, masterclass, évidemment, c'est un cours, entre guillemets, magistral, du moins sur un truc bien précis. Et alors, qu'est-ce qu'il fera du coup?
Alors, donc, lui, Hussein Indy, donc, juste pour préciser pourquoi on a invité Hussein Indy, parce
que. Un partenariat particulier.
On a un partenariat spécial cette année avec le Festival du film britannique de Dinard, puisque comme il y avait une vacance au niveau de la direction du Festival Univers Ciné, Caroline Grimaud du 14A avait pensé donner une carte blanche au Festival de Dinard pour qu'on ait quand même un Festival Univers Ciné. Il se trouve que, bon, on a réussi à monter cette compétition quand même, mais on a gardé ce partenariat spécial pour cette année avec le Festival de Dinard. Et donc, on donne une carte blanche à Hussein Indy, le directeur artistique du Festival de Dinard, le samedi 20 janvier. Ils vont nous présenter 2 films. Le premier, c'est God's Own Country, Seule la Terre, qui a eu le Hitchcock d'or à Dinard, donc le prix spécial de ce festival.
On n'y parle encore sexualité ou homosexualité.
C'est une histoire d'amour cette fois entre 2 hommes qui se passe dans le Yorkshire, dans une ferme, dans le milieu rural.
Mais plus âgé, Est-ce que ça rappelle Mountain Broken ou pas?
Broadback Mountain. Oui, oui. Je pense que ça rappelle pas mal. Oui, ça rappelle pas mal ce film, tout à fait. Mais le premier était américain, hein, je crois.
Taïwanais, anglais.
Taïwanais, d'accord.
Bah, anglais, taïwanais, mais sauf que c'est un film américain, effectivement.
Oui, c'est ça.
Mais c'est marrant parce que c'est anglais et là, c'est le réalisateur, c'est Francis Lee.
Voilà.
Bon, c'est comme quoi, des fois, il y a des choses qui se recoupent comme ça.
Voilà, et il y aura un deuxième film qui a été montré à Dinard, qui sera présenté aussi par Hussam Hindi le samedi 20 janvier à 19h55, qui s'appelle Patrick's Day, et qui est un film là sur la maladie mentale et l'intrusion du sentiment amoureux dans le monde de la maladie mentale. Et donc Hussam Hindi va présenter ces deux films, et il présentera aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, une masterclass sur humour et cinéma britannique. Donc là, la masterclass aura lieu le dimanche à 14h15, dimanche 21 janvier. Et donc, il a choisi de parler comédie, puisque l'humour anglais est bien connu, l'humour anglais est particulier. Et le dimanche, on a choisi justement des films drôles, parce que c'est vrai que dans le début du festival, on n'a pas forcément beaucoup de comédies, mais le dimanche, on aura plusieurs comédies. On aura The Party, de Sally Potter, qui est une comédie grinçante en noir et blanc. On aura aussi
qui est dit dans votre petit synopsis, vous dites que c'est un peu au polar ce que The Party, c'est pas ça. Je dis que ça a l'air d'être un univers très 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 étrange. Je m'étais noté comme truc entre un coach de vie allemand, deux lesbiennes dont une enceinte de triplé, un jeune homme très nerveux, le nez dans la coque. Bref, ça a l'air d'être assez
assez
espèce.
Ouais, hein. C'est déjanté. C'est en fait une fête qui
Party.
Voilà, une fête qui tourne un petit peu mal, en fait, on va dire. Mais c'est un huis clos. Qui se passe entre effectivement des personnages qui ont tous leur originalité, et c'est une comédie grinçante, un petit peu intellectuelle, sur voilà, des gens qui se retrouvent et puis qui vont finalement au lieu de faire la fête ensemble, qui vont finalement pas s'entretuer, mais disons qu'il y aura des choses seront dites sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Et donc, on aura aussi des comédies le dimanche avec The Man in the White Suit, qui est une comédie des années 50. Un petit peu une critique aussi du capitalisme.
C'est la naissance du nylon, non ?
C'est sur un homme qui va faire une invention formidable, c'est qu'il va trouver la formule pour faire un tissu qui ne se salit pas et qui est indestructible.
C'est un petit peu ce que le nylon, je crois que c'est chez Dupont de Moore, mais c'était aux États-Unis que ça a été créé. À l'époque, ça a été effectivement une grosse invention. Là, moi, ça m'a fait penser à ça, sauf qu'effectivement, c'est pas ça, mais c'était aussi un produit qui mettait en cause les produits existants. Et donc, j'imagine, par rapport à ceux qui font les textiles, ça remettait en cause à la fois leur manière de faire et puis leur futur. Parce que si c'est quelque chose d'inusable.
C'est ça. Donc là, toute la question va être, en fait, il va y avoir une alliance en fait du grand capital et des travailleurs contre cette nouvelle invention, puisque elle met en péril toute l'industrie textile, parce que si on construit si on produit maintenant des textiles inusables et qui ne se lavent pas, ben à quoi bon continuer à en produire, puisque...
À quoi bon faire de l'obsolescence programmée?
Voilà, c'est ça. Donc c'est une critique du capitalisme dans les années 50. C'est un film de patrimoine. Ce sera notre seul film de patrimoine, et donc voilà, c'est une comédie qui vaut le coup d'être vue,
avec Alec Guinness quand même, Sir Alec Guinness,
c'est ça, avec Alec Guinness. Et puis ensuite, comme vous disiez tout à l'heure, Hot Fuzz, alors là c'est un film vraiment hilarant, qui est un film complètement décalé. C'est une parodie sur une parodie de films d'action, des films policiers. Donc là, c'est sur un flic qui est un super flic, en fait, de Londres, et qui va se retrouver, parce qu'il est trop un super flic, il va se retrouver mis au placard dans un petit village tranquille qui, tous les ans, remporte le prix du meilleur village, du village le plus fleuri ou le plus calme, enfin, je ne sais plus exactement. Et donc, il va s'ennuyer comme un rat mort dans ce petit village. Et puis, finalement, une série d'accidents va se produire. Et puis tout d'un coup, il va se remettre du coup dans l'action. Et le film est vraiment très très drôle. C'est vraiment un film très 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 drôle et qui fait honneur à l'humour britannique.
Et donc vous dites, c'est effectivement un peu le film parodique, ce qui est au film d'action, ce que Shaun of the Dead est au film de zombies. Shaun of the Dead, c'est les moutons tueurs, hein, c'est ça, quelque chose comme ça.
Les moutons tueurs, je sais pas si ce serait la bonne traduction, mais
je sais plus. C'est les moutons, c'est les moutons qui égorgent des.
Alors j'ai pas vu Shaun of the Dead, mais je pense que vous confondez peut-être avec Shaun le mouton.
Non, pas du tout. Non, moi j'ai vu ce film parodique où effectivement, si je ne m'abuse, c'est il y a des savants fous qu'on crée finalement des moutons qui sont des moutons tueurs et qui égorgent tout le monde. C'est absolument, effectivement, c'est un truc parodique. C'est assez hilarant. Il faut vraiment le prendre au troisième degré, voire au quatrième degré. C'est un film qui aurait très bien pu être mis à l'absurde séance au 14 ans.
C'est ça. Je crois que c'est ce qu'on avait proposé. Puis finalement, ce sera un autre film. Qui sera montré dans le cadre de l'absurde séance, dans le cadre aussi du festival. Ce sera The Limehouse Golem, qui est un inédit.
Donc on va y revenir un petit peu. On finit sur donc la masterclass donc de Sam Hindy. Alors c'est vrai que l'humour britannique, c'est marrant parce que États-Unis, Grande-Bretagne, il y a la langue qui est commune, même s'il y a des différences maintenant en termes de langue. Mais l'humour, c'est pas du tout le même.
Pas du tout.
C'est vraiment, il y a un truc particulier, y compris on a notre humour franchouillard, qu'on va dire, avec des fois des choses, des gens qui peuvent être très très comment fins malgré tout dans ce qu'ils vont dire. Je pense à des gens qui vont faire des jeux de mots comme DeVos pouvait le faire, etc. Mais cet humour britannique, alors vous êtes américaniste, mais peut-être que vous avez quelques billes. D'où est-ce que ça peut venir? C'est tout mon grinçant qu'on retrouve, y compris dans des séries comme de Doctor Who, où il y a toujours des petits trucs un peu pince sans rire.
Oui, c'est décalé, en fait.
Oui, décalé.
C'est toujours décalé. Alors, je sais pas d'où ça vient, moi.
Est-ce que c'est parce que c'est une reine qui est au pouvoir, mais en même temps, c'est une république, j'en sais rien.
Ah, ce n'est pas une république.
C'est pas une république, mais c'est un royaume, mais je veux dire que ça fonctionne malgré tout comme un petit peu, pourrait fonctionner,
c'est une royaume. C'est une monarchie parlementaire.
Une monarchie parlementaire, ouais. Est-ce que il y a une forme de décalage aussi quelque part, dans...
Oui, c'est vrai que peut-être que ça rejoint aussi tout ce qui est l'excentricité britannique, puisque bon, on a toute cette Grande-Bretagne extrêmement, snob, extrêmement aristocratique, avec ses codes à respecter, etc. Puis on a une autre Grande-Bretagne avec des jeunes qui sont excentriques, qui s'habillent un peu comme ils veulent, qui avec en même temps l'uniforme à l'école et puis la liberté à l'extérieur de l'école. Je sais pas exactement d'où vient cet humour comme ça.
C'est vrai que les musiques, les punks qui sont venus là-bas, toutes les... Il y a quand même beaucoup de genres musicaux qui sont venus des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Et puis, ce côté aussi, dans toute situation, on reste stoïque.
Oui, le flegme britannique.
Donc peut-être qu'il nous en dira un peu plus, Sam Hindy, à travers, effectivement, c'est vrai qu'on on pense plein de gens, l'humour des Monty Python.
Voilà, on pense à Monty Python.
Ou d'autres choses comme
ça ouais.
D'accord. Bon, pour dire Dinard, c'est vrai que c'est un bon festival. Si les gens ont l'occasion de pouvoir y aller, allez-y. Moi, j'ai découvert des gens là-bas comme j'avais fait interview à Andrew Birkin, pour ceux qui, les vieux auditeurs qui me suivent éventuellement depuis longtemps, pour The Simon Garden. C'est vraiment été une découverte. C'était quelqu'un d'assez adorable, Andrew Birkin. J'ai Richard Attenborough que j'avais pu rencontrer là-bas aussi. Mmh. Et puis plein de films intéressants et vraiment. Et puis bon, voilà, c'est Dinard, c'est sympa. Voilà.
Oui, c'est le plus grand festival en France de cinéma britannique, en fait.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter, en fait, la musique du film Just a Charlie. Donc, c'est Strong de Ruth Owens.
Owens, voilà.
Strange. However far we go, things aren't always as they seem. Cause you can go so far, still fall far behind. It's not about how fast you go, it's how fast you change your mind. One thing you should know is that there is no end. Just the place you start and then the next thing around the bend. And if you change your mind and you change your heart, well darling, I'm inclined to say it's not your start. Cause you gotta start strong if you mean to go on. You gotta stay strong if you mean to go on. And you gotta start strong if you mean to go on. Oh, you got to stay strong. Living in the past and never letting go will never make you better, it will only make you slow. So look to the path laid out ahead, and the things it leads to, the things waiting there instead. And if you change your mind and you change your heart, well darling, I'm inclined to say it's not your start. Cause you gotta start strong if you mean to go on, and you gotta stay strong if you mean to go on. Gotta stop strong if you mean to go on. You gotta stay strong if you mean to go on. And you gotta stop strong if you mean to go on. Oh, you got to stay strong. And you gotta stop strong if you mean to go on. And you gotta stay strong if you mean to go on. And you gotta stop strong if you mean to go on.
Voilà, on se retrouve avec Céline Le Templet du Festival Universciné Britannique pour revoir encore un peu cette programmation de ce festival. Peut-être pour une fois, je vais faire honneur au film d'enfant, même si c'est peut-être vu par les grandes personnes, et puisqu'il y a, bon, il y a des choses qui sont déjà connues, qu'on a pu déjà voir, puisque je pense que c'est plutôt pour Shaun le Mouton, pas Shaun le Mouton, mais pour, comment, voilà, c'est Gromit. C'est des courts-métrages qu'on a dû traîner en un seul, parce que j'ai déjà vu, c'est marqué 2017, mais j'ai déjà vu toutes ces histoires-là. Donc Gromit qui est devenu amoureux d'ailleurs à un moment donné d'une dame qui vend de la laine. Il y a toute l'histoire de.
Je pense que parmi les deux, il y a donc Close Shave et A Matter of Life and Death. Je crois que A Matter of Life and Death n'a jamais été programmé en France. Enfin, il est sorti cette année, mm-hmm. mais je ne crois pas qu'il avait déjà été montré. Peut-être Close Shave, oui, c'est celle que dont vous parliez avec la vendeuse de laine.
Quand ils deviennent boulangers, rencontrent les gérés d'une marque, si aussi, je l'ai déjà vu aussi. Comme d'habitude, c'est fandard. Nick Park nous amuse bien, mais il y a toujours ce décalage. Ah, c'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu à comment les personnages de Binet avec le chien, les bidonchons avec leur chien qui licante. Là, il y a un petit peu ce décalage aussi entre Wallace et Gromit. Gromit qui finalement il semble plus intelligent que son maître. Donc voilà, toujours pour ceux qui aiment, c'est toujours un plaisir de voir, notamment sur grand écran. Donc ça sera dimanche en plus à 11h15. Donc on peut emmener effectivement les enfants qui verront eux leur propre lecture et les adultes leur propre lecture.
Et tous les films sont en version originale sous-titrée français. Hein,
donc oui, donc ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit des enfants quand même trop petits, parce qu'autrement effectivement, ce serait difficile.
Ouais.
Une autre une autre série de courts-métrages qui ont fait réunis ou en tout cas qui ont été présentés à la télévision en plusieurs courts-métrages, c'est Revolting Rhymes.
Revolting Rhymes, oui, un conte peut en cacher un autre. Oui, il est passé à la télévision très récemment, je crois.
Absolument.
La semaine dernière, il me semble.
Alors,
pendant les vacances de Noël.
Oui, c'est là que je l'ai regardé avec ma propre fille. Et c'est vrai que là, c'est encore ce qui se fait de plus en plus, à la fois notamment dans les livres pour enfants, où on commence à décaler les contes, à déstructurer complètement les contes. Je pense par exemple à Geoffroy de Peinard avec ses personnages de loup qui se met en couple avec la mère grand. Bon, là il y a pas ça, mais il y a ce genre de choses.
Ouais.
Et où on s'aperçoit aussi que eh bien, les loups peuvent être des grands conteurs.
Oui, et c'est un film qui est très intéressant. J'ai trouvé ce film à la fois... je pense qu'il peut plaire à la fois aux adultes et aux enfants. C'est un film vraiment tout public parce qu'il il joue sur les codes du conte. Donc, il va réinvestir les codes du conte et les transgresser, en fait, complètement les subvertir,
subvertir.
Et donc, en fait, c'est le loup, effectivement, qui va raconter l'histoire. Et donc il va croiser aussi des contes bien connus. Donc on a Jack de Jack et le haricot magique qui va être ami en fait avec Cendrillon. Et puis on a le petit chaperon rouge qui va avoir une histoire croisée avec Blanche-Neige. Et donc ces personnages féminins qui sont habituellement dans les contes traditionnels des personnages passifs auxquels il arrive des mésaventures et qui sont en fait des proies, elles vont se retrouver maîtresses de leur propre destinée. Et donc ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. En fait, c'est une adaptation au cinéma d'un livre de Roald Dahl. Qui avait réécrit chacun des contes individuellement.
Ah oui.
Et là, le génie du réalisateur du film, c'est d'avoir réussi en plus d'adapter les contes de Roald Dahl au cinéma, c'est d'avoir croisé en plus ces différents contes. Donc c'est vraiment un film très très beau aussi visuellement.
Ah oui, oui, oui.
Il est très bien fait, c'est tout en images de synthèse.
Alors Perrault et Grimm, ils se retournent peut-être dans leur tombe, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'effectivement les contes sont aussi des choses qui sont là pour que les enfants réagissent, etc. Et là, quelque part, il y a de ça aussi. Alors, quand on dit ça démontre, ça démystifie, alors on n'est pas... c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus amusant que, je pense, à une série où ce sont des acteurs qui jouent Once Upon, où effectivement, ils se croisent aussi, là aussi, des tas d'histoires des êtres fantastiques avec les êtres de conte. Là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et en plus, chacun pourrait y trouver des lectures. Si on voit le petit chaperon rouge, bon, sans dévoiler les choses, qui à un moment donné se retrouve maman, mais il n'y a pas de papa. Alors, elle est divorcée, elle a utilisé la PMA ou n'importe quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Les petits cochons, voilà, il y en a un qui est pas forcément aussi gentil que ça. Là, des petits, bon, gentil, je veux dire, il est banquier, simplement.
Banquier, oui.
Voilà, donc il y a plein de petites choses. Et puis les sept nains, ils ont beau être travailleurs, ils ont pas un copec. Je vous dis pas pourquoi. Il faut découvrir. Et donc cette manière de écrire interroge aussi la société, c'est-à-dire qu'il a vraiment remis ses personnages dans la société d'aujourd'hui avec éventuellement certaines problématiques d'aujourd'hui.
Oui. Oui, puis sur la question, toute la question de la place des femmes aussi, je trouve que c'est très intéressant là-dessus parce que, comme je disais tout à l'heure, les filles dans les contes pour enfants, bah, sont quand même pas très gâtées en général. Elles sont soit exploitées par des belles-mères méchantes, soit elles se retrouvent à être la proie des méchants loups, ou bien à être à attendre le baiser du prince pour être réveillée. Et là, au contraire, ce sont des filles qui vont vraiment devenir maîtresses de leur propre destin. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant dans la perspective aujourd'hui de toute cette discussion sur l'égalité entre les sexes, entre les genres et la place des femmes dans la société.
Oui, c'est vraiment une discussion actuelle, puisque récemment, il y a quelques jours, il y a eu dans Le Monde et puis dans un autre journal deux écritures décrites par des femmes, des féministes d'un côté, des gens comme Catherine Millet, comme Deneuve de l'autre côté. J'ai pas lu les textes étonnants, mais visiblement, il y a excusez-moi, il y a un petit conflit dans la manière de voir les choses suite à l'affaire Weinstein. Donc là, on est au cœur, effectivement, de la place des femmes et les relations hommes-femmes aujourd'hui dans notre société.
Tout à fait, oui. Moi non plus, j'ai pas encore lu la lettre ouverte qui fait polémique dans Le Monde. J'en ai entendu parler, mais bon, j'ai pas encore regardé ça de près.
Alors, on regardera ça et puis ça sera peut-être l'occasion d'avoir un autre sujet. Donc voilà, ça c'était pour les enfants, mais vous le voyez bien, c'est tout à fait également pour les adultes. Et comme d'habitude maintenant dans beaucoup de films d'animation, il y a une double lecture à pouvoir avoir, et c'est un plaisir pour tout le monde. Et c'est vrai, effectivement, c'est un très beau Revolting Rhyme, c'est vraiment une belle réalisation. Alors, le fantastique, on a commencé d'en parler tout à l'heure, le golem, c'est un être fantastique de terre, créature légendaire hébraïque, et elle débarque à Londres.
Oui, alors ça, ce sera notre film inédit du jeudi 18 janvier à 22h15 qui sera montré dans le cadre de l'absurde séance dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est un thriller, un film d'horreur qui se passe dans les bas-fonds de Londres dans les années 1880. Donc, y a cette créature fantastique, le golem, disons un assassin qui se fait passer pour le golem qui va commettre des meurtres atroces à Londres, et tout le film va être autour de ce mystère, et donc va être l'occasion de le percer à jour. Et donc c'est seulement à la fin qu'on va découvrir qui est le véritable tueur. Donc c'est une enquête policière. C'est un très bon film d'horreur, et je vous le recommande si vous voulez trembler le jeudi 18 à 22h15.
Autrement, si on veut trembler, mais cette fois-ci sur ses jambes pour danser, il y a à la fois un film musical, du moins un documentaire sur le pulp, et puis aussi un concert qui nous est proposé, c'est cela ?
Oui, alors on aura donc ce documentaire musical Pulp, a film about life, death and supermarkets qui sera projeté le vendredi 19 janvier à 22h30. Donc c'est sur ce fameux groupe de pop rock anglais des années 80-90 qui a connu ses heures de gloire à ce moment-là. Et le documentaire est sur le dernier concert de Pulp. Puisque le groupe s'était séparé et a décidé finalement de refaire un dernier concert dans sa ville d'origine à Sheffield en 2012. Et donc le film est sur ce dernier concert, sur les fans de la première heure, sur les gens qui viennent voir le groupe sur scène, sur les différents membres du groupe également. Et évidemment, il y a aussi des extraits musicaux. Donc on a pensé que c'était un bon moyen d'illustrer aussi tout un pan de l'identité de la culture britannique, de montrer que la Grande-Bretagne, c'est aussi la pop et le rock.
Et c'est marrant d'ailleurs, autour de cette musique, ces groupes qui sont vraiment identifiés généralement à une ville. On a des groupes en France qui sont identifiés, je sais pas, comme Indochine par exemple, bon, des groupes qui sont bien connus, qui ont une histoire, etc. Mais il n'y a pas cette identification par rapport à une ville, par rapport peut-être à, je sais pas, est-ce que c'est une culture locale, je ne sais quoi. Les quêtes de Liverpool, Oasis, c'est encore un autre endroit, c'est Sheffield. Alors, je ressens ça en tout cas vu de l'extérieur. Alors, est-ce que c'est parce qu'en France on essaye de regarder d'un peu plus près d'où ils viennent, cette histoire de jeunes qui viennent peut-être de quartier, je ne sais trop rien, mais voilà, c'est en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire, j'ai l'impression, non?
Bon, on a quand même en France, on a quand même Ayam qui était identifié à Marseille, oui. Zelda à Toulouse, on a quand même des grands
qu'on en parle moins souvent de leur appartenance à leur ville.
Alors c'est vrai peut-être que on a moins en France cette identité locale, peut-être avec un État beaucoup plus centralisateur, et il faut monter à Paris pour avoir du succès et puis pour pouvoir faire carrière dans la musique. Peut-être que c'est lié à ça, je sais pas. Alors peut-être que en Angleterre c'est peut-être moins présent avec le fait que le Royaume-Uni c'est quand même déjà plusieurs nations qui sont regroupées un petit peu artificiellement dans le même pays, mais il y a peut-être moins d'identité nationale forte comme il peut y en avoir en France. Du coup, peut-être que les gens s'identifient plus à leur culture locale.
Il faudrait inviter Philippe Manœuvre un jour ici pour en parler. Donc, suite à ça, il y aura effectivement un concert qui sera proposé.
Oui, il y aura un concert du groupe The Gift, donc qui est un groupe nantais, là, pour le coup, mais qui fait du rock anglais. On a trouvé que c'était une manière aussi différente. D'habitude, il n'y a pas de concert pendant le festival Univers Ciné, mais on a voulu cette année aussi, pour remercier les bénévoles qui vont nous donner de leur temps pendant le festival, on a voulu organiser ce concert un petit peu en marge du festival, parce que ce sera pas au 14A, ce sera au Café du Cinéma rue des Carmélites, donc plus proche du cinéma, le cinématographe.
Oui, à côté, oui.
Et donc ce sera le samedi 20 janvier à 20h. Et donc ceux qui iront au concert pourront ensuite aller voir le film documentaire sur Pulp. Voilà, donc ce sera en marge du festival, mais dans le cadre du festival également. Et donc c'est un groupe de rock qui est héritier du mouvement britannique mode des années 60. Et donc voilà, on vous invite à venir. Ce sera un concert gratuit.
D'accord. Bon, concert gratuit le samedi 20 à 20h.
20h, voilà.
20h, c'est facile à se
au
rappeler.
Au Café du Cinéma.
Voilà.
Rue des Carmélites.
Sur la petite place, il y a juste avec la belle devanture de ce café en mosaïque. Autrement, on a parlé, vous venez juste d'évoquer effectivement que la Grande-Bretagne, c'est une mosaïque de comtés différents. Il y a surtout un certain nombre de films qui se passent en Irlande, en Cornouailles, etc. Donc on va pouvoir voir effectivement différents endroits. Et là, c'est une petite question d'actualité que j'ai envie de vous poser. Est-ce que, en fait, dans le Brexit qui est en train de se faire, bon, ça fait déjà... Ça va faire presque un an déjà que ça a été voté. Est-ce que vous avez pu voir à travers les films que vous avez pu avoir accès que c'est quelque chose qui... une problématique qui commence à ressortir ou pas? Je pense notamment effectivement des réalisateurs irlandais ou des réalisateurs écossais qui auraient pu... parce que je pense que c'est les deux points de friction qu'il y a aujourd'hui en Grande-Bretagne par rapport au Brexit. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort, est-ce que vous ressortez, ou éventuellement vous avez des connaissances un petit peu là-dedans
Alors dans les films qu'on a vus pour la compétition, parce que... ce sont des films inédits. J'ai pas eu le sentiment, non, de retrouver ce thème du Brexit dans les films que j'ai regardés. Alors sans doute parce que c'est un petit peu trop tôt, en fait, parce que les films qui viennent de sortir, en fait, ont été faits. Enfin, on met longtemps à faire un film.
Oui.
Hein, ça met 2-3 ans, pardon, avant qu'un film soit vraiment complètement produit et distribué. Donc je pense que c'est un petit peu trop tôt. Je pense qu'on en verra peut-être les effets dans le cinéma très prochainement, mais j'ai pas encore eu le sentiment que c'était présent. Non, pour l'instant, non.
Et vous, dans votre enseignement, dans ce que vous devez avoir faire, est-ce que c'est quelque chose donc justement cette problématique irlandaise et écossaise, alors on en parle un petit peu en France, mais pas forcément. Alors vous avez peut-être plus d'informations. Est-ce que c'est quelque chose qui on sent bien que l'Irlande du Nord se pose des questions sur le Brexit par rapport à une, entre guillemets, peut-être est-ce qu'il y aurait une union avec l'Irlande, l'Écosse, l'indépendance
En fait, ça fait plusieurs c'est vrai que ça fait vraiment plusieurs années, depuis les années 90, qu'il y a une dynamique autonomisation, en quelque sorte, des différentes nations du Royaume-Uni, puisque l'Écosse a son propre parlement, le Pays de Galles a son assemblée, l'Irlande du Nord également. Donc toutes les nations du Royaume-Uni ont déjà, donc dans le processus qu'on a appelé la devolution, d'évolution en fait, ils ont acquis une certaine autonomie politique dans certains, donc ils peuvent voter leurs propres lois dans certains domaines. Il y a quand même évidemment le Parlement de Westminster qui reste l'Assemblée bon, qui conserve le plus de pouvoir. Mais l'Écosse, ben, comme vous le savez, a organisé un référendum récemment avant le Brexit et ils sont pas passés loin de choisir l'indépendance. C'est vrai que là, avec le Brexit, il se pose véritablement la question de sortir du Royaume-Uni pour rester dans l'Europe. Et donc là, peut-être qu'un deuxième référendum va être organisé.
On irait vers une Catalogne britannique.
Bah, écoutez, c'est ce qui semble se profiler. Après, je ne sais pas du tout quel choix évidemment les Écossais feront dans les nouvelles circonstances du Royaume-Uni qui sort de l'Europe. Mais je pense que les Écossais étaient vraiment pour être européens et qu'ils auraient peut-être à gagner être dans l'Europe en dehors du Royaume-Uni. Parce que être en dehors du Royaume-Uni, dans le Royaume-Uni intégré à l'Europe, c'était peut-être pas un bon calcul. Mais être dans l'Europe en sortant du Royaume-Uni, c'est peut-être un meilleur calcul politique.
Mais dans ce cas-là, la première ministre, on l'a vu de ce que ça a pu faire le premier ministre espagnol, la première ministre en britannique, est-ce que vous pensez la connaissance que vous pouvez avoir de la Grande-Bretagne, elle irait vers quelque chose d'aussi dur ou du fait qu'il y a quand même déjà cette forme d'autonomie qui existe, ça pourrait être plus souple? La réaction du premier ministre et de la première ministre en britannique.
Alors, il y a une règle en Grande-Bretagne, c'est que le Parlement est souverain. Donc, la souveraineté réside dans le Parlement. Donc, si le Parlement s'opposait à l'indépendance de l'Écosse, l'Écosse ne pourrait pas prendre son indépendance. Alors après, ça pourrait aller à l'affrontement.
D'accord.
Mais le Parlement britannique a le dernier mot, toujours dans ces décisions-là. Donc si le Parlement décide que c'est anticonstitutionnel pour l'Écosse de sortir du Royaume-Uni, il pourrait l'empêcher institutionnellement et légalement de sortir. Après, je ne sais pas du tout comment ça pourrait se passer, si ça amènerait à une démission de Theresa May. David Cameron a démissionné quand le Royaume-Uni a choisi le Brexit. Theresa May pourrait démissionner si l'Écosse décide de sortir.
Ça se fait un petit peu plus en Grande-Bretagne qu'en France de démissionner quand on se retrouve affronté à quelque chose qui les gens ne sont pas d'accord avec vous. C'est un peu plus facile chez les hommes et les femmes politiques en Grande-Bretagne. Je sais pas. Là aussi, c'est peut-être une particularité Grande-Bretagne et qu'on n'a pas en France.
Oui, peut-être.
Mais ces parlements qui existent aujourd'hui en Écosse, en Cornouailles, en Irlande, quels sont leurs...
En Cornouailles, non, pas en Cornouailles.
Pays de Galles. Excusez-moi, Pays de Galles. Quelles sont leurs compétences et l'autonomie qu'ils ont? Parce qu'effectivement, on voit en Espagne, il y a quand même une grosse forme d'autonomie. Quelles compétences elles ont par rapport à l'État central?
Alors, l'État central garde, enfin le Parlement britannique de Westminster garde tout ce qui est diplomatie, armée, politique militaire, etc. Donc tout ce qui est la monnaie aussi, tout ce qui est budget. Donc je crois que toutes les assemblées locales, enfin nationales, ont de l'autonomie en matière des transports, en matière agricole, en matière aussi d'éducation. Donc ils ont un certain nombre de prérogatives. Alors je pourrais pas vous citer tous les secteurs dans lesquels ils ont...
L'éducation, c'est un point important.
Oui, je crois l'éducation.
Et l'impôt, ils peuvent prendre l'impôt
Alors ça, je pourrais pas vous dire. J'ai su ces choses-là. Là, je ne peux pas vous préciser plus. Voilà, je peux pas dire
plus,
exactement.
Plus avant. Voilà. Donc, je disais effectivement pourquoi je parlais de ça, parce qu'effectivement, dans un certain nombre de films qui vont, il y a des films qui vont en Irlande, en Cornouailles, on peut parler un petit peu de ces films-là.
Oui, alors Patrick's Day, c'est par exemple un film qu'on montre donc samedi 20 janvier à 19h55, qui est le coup de cœur du festival de Dinard. C'est un film qui se passe en Irlande, donc là en République d'Irlande, donc pas en Irlande du Nord. Et donc il y a toute une thématique, c'est vrai, dans le film autour de l'Irlande, il y a beaucoup la couleur verte est très présente. Le film s'appelle Patrick's Day, comme vous savez, la Saint-Patrick, c'est le saint patron irlandais.
Sur cette antenne, donc on le sait bien.
Une fête voilà qui est célébrée par les Irlandais. Il se trouve que c'est aussi donc l'anniversaire de Patrick, le personnage principal, qui est né à la Saint-Patrick. La thématique irlandaise est un petit peu marginale dans le film, parce que c'est vraiment une histoire autour de ce personnage principal qui en fait souffre de schizophrénie. Et donc tout le film est autour de cette question de la maladie mentale. Donc c'est un jeune homme qui est très touchant, très attachant, qui travaille dans un supermarché le jour et qui vit dans une institution psychiatrique la nuit, qui a pour seule visite celle de sa mère et qui partage sa chambre avec un autre malade mental, et puis qui va tout d'un coup, le jour de son anniversaire, Patrick's Day, le jour de la Saint-Patrick, qui va rencontrer une jeune femme qui est hôtesse de l'air au bord du suicide, et qui va tomber amoureux et qui va découvrir le sentiment amoureux avec sa sensibilité de schizophrène, donc c'est-à-dire une sensibilité exacerbée. Et donc cet amour va révéler quelque chose de tout à fait nouveau en lui. Et donc c'est pour ça que c'est un film très touchant. Et sa mère va essayer de s'opposer à cet amour, elle va essayer de lui faire croire que tout ça s'est passé dans sa tête, tout ça ce sont des histoires, et tout ça c'est en fait le produit de sa maladie mentale. Et donc elle va s'interposer dans cette relation. Et donc c'est un film qui est assez dur, qui interroge aussi la question de savoir est-ce que tout le monde a le droit à l'amour, est-ce que un malade mental a le droit à l'amour, d'être aimé et d'aimer en retour. Et le film suggère quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement c'est l'amour rend fou. Et finalement, quand on est amoureux, on devient fou, et du coup, on est tous un petit peu malades mentaux, quoi, finalement. Donc c'est assez intéressant dans la manière de montrer la maladie mentale.
Mais ça, c'est terrible aussi en même temps, parce que ça montre deux facettes de l'amour, l'amour enfermant. On dit là, l'amour rend fou, donc ça renvoie effectivement à sa maladie mentale, mais l'amour de sa mère l'enferme également dans sa maladie ou dans son institution, alors que le fait de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, là par contre ça l'ouvre et c'est lui-même, il permet à cette jeune femme de s'en sortir. Donc voilà, il y a les deux facettes de l'amour, hein, l'amour maternel d'un côté, un amour
oui, un amour de sa mère qui est complètement étouffant en fait, et son amour maternel étouffant va en fait lui faire plus de mal que de bien. Elle pense le protéger de ses propres sentiments en s'interposant dans cette relation. Elle pense que c'est faire son bien, et en réalité elle va faire son malheur. Puis bon, on va pas révéler la fin de l'histoire, mais la mère va aussi évoluer au cours du film. Et donc le deuxième film, donc peut-être que vous vouliez évoquer sur la Cornouaille, il y a My Cousin Rachel qui se passe dans ces paysages magnifiques de Cornouaille. Qui est un film, alors là c'est un film en costume, un film qui se passe au 19e siècle et qui est en fait une adaptation au cinéma d'un roman de Daphné du Maurier qui est sorti au cinéma assez récemment et qu'on reprogramme là dans le cadre du festival. Et donc là, c'est sur cette héroïne ou anti-héroïne, mais c'est sur cette femme Rachel, dont on ne va pas savoir jusqu'à la fin si c'est une manipulatrice ou non. Donc
ah bah là encore manipulatrice, la mère qui est voilà, bah non, encore c'est pas ça là, deux films dont les femmes ne sont pas des modèles, on va dire.
Voilà.
La boxe, moi je suis pas très boxe, mais au moins que la boxe peut être aussi une thérapie. On parlait de thérapie, du moins de maladie par rapport à Patrick's Day. Et là c'est une forme de thérapie de quelqu'un qui a besoin de se reconstituer. Là aussi on parlait, c'est pour ça que je disais qu'il y a un fil conducteur dans plein de films sur l'identité, comment retrouver sa propre identité et le libre arbitre. Là aussi quelque part Joe Brown, c'est un peu ça.
Oui, donc le film Joe Bones, c'est un autre inédit, donc un film qui n'est pas sorti en France, qu'on projettera le vendredi 19 janvier à 18h15. Donc comme vous l'avez dit, c'est un film de boxe. C'est un film sur Jimmy McCabe, qui est en fait un homme à la dérive, un homme qui se fait expulser de son appartement, un homme qui en fait a des problèmes d'alcoolisme et qui va se retrouver, se reconstituer, se reconstruire par la boxe. En fait, c'est quelqu'un qui...
C'est un ancien boxeur.
C'est un ancien boxeur qui était champion dans sa catégorie quand il était jeune. Il va donc au moment où il perd tout et il perd pied en fait dans sa vie, il va se retrouver dans son club d'origine et il va décider de reprendre son activité de boxeur et de reprendre le combat, de remonter sur le ring.
Une forme
et
de donc, famille, il retrouve un peu sa famille dans voilà. dans son club de boxe quelque part.
Tout à fait, il retrouve son coach, il retrouve ceux qui ont cru en lui à son époque, enfin à l'époque où il était dans le milieu. Et puis bon, au départ, ils vont être un petit peu réticents à ce qu'il revienne parce qu'il est pas clean. Comme il boit, ils veulent que des gens évidemment sportifs et totalement engagés dans le sport. Et puis finalement, il va retrouver sa dignité petit à petit, ben par le sport et par le combat, qui est aussi un combat contre lui-même. Et puis vers l'acceptation de ce problème qu'il a d'alcoolisme, qui va réussir à surmonter par le sport.
C'est assez marrant parce que la boxe, c'est quelque chose, un sport que je suis pas du tout attiré par ça. J'aime pas voir les gens se foutre sur la tronche. Mais on voit le nombre de films qui ont été faits autour de la boxe et on a ce côté, je disais, famille. On a vraiment l'impression, à travers tous les films qu'on voit, que le côté le club de boxe, c'est quelque chose de très particulier. C'est très exigeant aussi,
oui.
Et on le retrouve dans plein de choses. Cette thématique, le renouveau de quelqu'un par le sport, mais en particulier par la boxe, c'est des choses qu'on retrouve un petit peu dans différents films. C'est assez amusant. Ce serait un jour intéressant d'analyser cette chose-là à travers les, parce que sur d'autres sports, j'ai pas souvenir. Il y en a quelques-uns sur d'autres sports, notamment la course, etc., les courses à pied. Mais ça me paraît moins...
Bah peut-être parce que la boxe, c'est aussi le dépassement de soi, le combat...
C'est esthétiquement et cinématographiquement aussi...
Oui, il y a une esthétique aussi. Alors, on aurait bien aimé avoir Christophe Lamoureux, qui est un sociologue du cinéma et qui est spécialiste du catch au cinéma et aussi de la boxe. On aurait bien aimé l'avoir avec nous pour cette soirée spéciale, mais malheureusement, il est pris au festival Premier Plan d'Angers, donc... Il pourra pas être avec nous ce soir-là, mais il aurait pu en parler avec son œil de spécialiste, justement.
Il est déjà pratiquement, on a 30 secondes, pour dire qu'il y a un film de Ritesh Batra qui avait été le réalisateur de Lunchbox, qui avait été présenté au Festival des Trois Continents en clôture, un très beau film qui présente The Sense of An Ending.
Oui, ce sera notre film de clôture et une avant-première.
Voilà. Donc, et il y a aussi des courts-métrages. Un site pour pouvoir vous retrouver.
Oui, donc vous pouvez trouver tout le programme sur www.universciné-nantes.org. Il faut cliquer sur l'onglet Universciné britannique.
Céline Le Templet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis bon courage pour le festival.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.